Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Le débrief du Grand Prix de Las Vegas, il ne reste plus que deux courses avant la fin de ce championnat 2025. Et Las Vegas est réputé pour ses casinos, pour ses jackpots qui tombent. Il y en a un qui a touché le jackpot, c'est Max Verstappen, parce qu'il y a eu des scénarios, des conditions encore totalement incroyables. Cette saison 2025 est folle, franchement on se régale à chaque fois, il se passe des choses sur la piste, en dehors. On va revenir sur ce week-end de folie. Je vous le disais, Max Verstappen s'est imposé, et en plus les McLaren ont été disqualifiés après la course. Norris avait franchi la ligne en deuxième position, Piastri quatrième, et ils ont été disqualifiés. C'est scénario de folie qu'on va vous raconter avec les ingénieurs du paddock. Le team principal est là, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Salut mon Nico, bonjour à tous.
On l'avait pas vu venir celle-là, Jean-Luc, quand même, hein. La disqualification des McLaren, là on l'avait pas vu venir.
Bah écoute, il faut reconnaître que, comme tu le rappelais, dans la ville des jeux, les bandits manchots sont présents à tous les coins de rue. Mais là, oui, c'est une forme de hold-up. Alors je m'interdis de qualifier Max de bandit manchot, bien sûr.
Les ingénieurs qui sont avec toi, Jean-Luc, pour débriefer ce Grand Prix de Las Vegas, Arnaud Valadon, est-ce que c'est un bandit manchot? Arnaud Valadon, je ne sais pas.
Vous m'avez piqué mon jeu de mots, parce que j'allais faire quelque chose avec bandit manchot. En tout cas, c'est pas des bandits chez McLaren, mais c'est un peu des manchots aujourd'hui.
Pas mal, c'est pas vrai. Mal.
Ils sont plus manchots que bandits. Et salut, Tristan Van Hendrich est avec nous. Salut Tristan.
Salut Nico, salut à tous. Moi, j'ai pas de jeu de mots. Hein. Vous êtes sur une autre planète, vous êtes sur un autre niveau.
Ouais,
salut, mais Tristan. Non. Mais tu sais, il y a une belle planète là-bas, il y a une belle boule. T'as vu tout ce qu'ils mettent dessus, si je peux me permettre. Hein.
Ouais. Ah ouais, c'est pas mal.
La sphère, oui.
Mais la quand est-ce que tu mettrais toi, Jean-Luc, sur la sphère?
Oh bah jamais, j'espère.
Je vous rappelle que le paddock RMC est bien évidemment dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, que vous pouvez nous noter sur ces plateformes, les 5 petites étoiles, que vous avez tous les warm-up qui sont encore dispo, les débriefs des courses précédentes, et qu'on vous donne rendez-vous jeudi, hein, parce que le warm-up du Grand Prix du Qatar, ce sera ce jeudi. Ça enchaîne là, les deux derniers Grands Prix vont s'enchaîner à une très grande vitesse. Les gars, vos petites notes de ce Grand Prix de Las Vegas, Jean-Luc.
Ah oh, écoute, comment ne pas mettre 4 évidemment.
4, Arnaud, Tristan?
Oui, 4, entre une qualif très surprenante avec ses conditions dantesques pluvieuses et cette course à rebondissement qui, le 4 prend forme parce qu'il y a aussi cette disqualification à l'arrivée, mais c'était quand même un grand prix un petit peu fou, donc 4, je suis d'accord.
Ouais, sympa, sympa. Tristan, pour toi?
3,5. Je suis resté un peu sur ma faim sur cette bataille au DRS entre Antonelli, Charles Leclerc et Oscar Piastri. J'aurais pu mettre un petit peu plus si on avait eu quelques dépassements avec ces trois-là.
Et bah les gars, c'est parti, on va se plonger dans ce débrief du Grand Prix de Las Vegas. Il y a plein de choses à dire, c'est parti. Le classement de ce Grand Prix de Las Vegas sans les McLaren, je vous le disais, on va revenir sur les conditions de leur disqualification. Max Verstappen s'impose, 25 points pour lui, doublé de Mercedes sur le podium avec George Russell deuxième et Andrea Kimi Antonelli troisième. Mercedes qui a peut-être sécurisé sa deuxième place au championnat des constructeurs. Charles Leclerc quatrième, Sainz cinquième, Hadjaré sixième, Hülkenberg septième, Hamilton huitième alors qu'il partait dernier, et Ocon et Berman, les deux As, au neuvième et dixième position. Pierre Gasly termine 13e au championnat du monde des pilotes. Les gars, c'est ce qui nous intéresse. Tout s'est resserré. C'est la folie. Lando Norris n'a plus que 24 points d'avance sur Piastri et sur Max Verstappen qui a recollé à Oscar Piastri. Voilà, c'est la grosse information de ce Grand Prix de Las Vegas et au classement des constructeurs Mercedes. Donc, je vous le disais, deuxième, 431 points. Ils ont désormais 40 points d'avance sur Red Bull et Ferrari qui s'engluent à la 4e place de ce championnat du monde des constructeurs. Jean-Luc, on va rapidement se plonger dans ce qui nous a intéressé sur la fin de cette course. C'est bien évidemment la disqualification des pilotes McLaren. Faut que tu nous expliques ce qui s'est passé, Jean-Luc, parce que nous, du coup, on termine ce Grand Prix en se disant Norris est deuxième, Piastri quatrième, Norris a fait un vrai pas de plus vers le titre de champion du monde, et tout s'est effondré en quelques minutes pour McLaren.
Absolument, mon Nico. Ben écoute, c'est un scénario hollywoodien. Il n'y a pas d'autre mot. Hollywood, c'est en Californie, évidemment. C'est pas très très loin de Las Vegas. Mais là, c'est vrai que c'était totalement inattendu. Alors, d'un mot, parce qu'on va y revenir évidemment, Verstappen a fait comme d'habitude un boulot absolument remarquable. Bon, il ne décroche pas la pole, mais il part en première ligne. Et puis, il faut bien reconnaître que Lando se prend une nouvelle fois les pieds dans le tapis tout seul au freinage du premier virage. Il part à l'extérieur très loin, il manque même de rester quasiment là. Et Verstappen prend l'avantage et ensuite personne ne le revoit. Alors pour revenir effectivement à cette erreur des McLaren, il faut la replacer dans un contexte plus général. Ça a été d'ailleurs les excuses ou les explications, pour le moins, avancées par les trois représentants de l'équipe McLaren qui ont été convoqués. Après, on rappelle le processus, parce que je sais que certains, et même après nous avoir écoutés, vont continuer à crier au scandale et à la manipulation. Non, c'est Joe Bower, le délégué technique de la FIA, qui est vraiment quelqu'un de reconnu alors par tout le monde, de respecté, qui procède. Il ne fait pas tout lui-même, parce qu'il y a tellement de vérifications sur l'ensemble des 20 monoplaces. Et d'ailleurs, la FIA a publié la liste des vérifications effectuées sur toutes les monoplaces, ce qui est exceptionnel. Ça n'a, je pense, jamais été le cas. Pour bien préciser qu'ils ont contrôlé toutes les monoplaces et sur énormément de paramètres. Ça va également jusqu'au débit de carburant par tour. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Bon. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les vérifications techniques, avant d'entériner le résultat, prennent quand même quelques temps. Vous l'avez vu à chaque fois, on a un classement provisoire du Grand Prix, sous réserve, et puis voilà. Bon, donc j'en arrive au fait. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on mesure la fameuse épaisseur du fond plat, qui est de 10 mm originellement, sur toutes les monoplaces, depuis très longtemps, eh bien, il y a une tolérance qui est de plus ou moins 0,1 mm. Ça veut dire que, en clair, à partir de 9 mm, eh bien, on est sanctionnable et sanctionné, parce que là aussi, j'ai fait quelques petites recherches et je ne vais pas tout vous annoncer, mais des déclassés, pour cette raison-là, il y en a eu énormément, ne serait-ce que 2023, Austin, Hamilton et Leclerc, et le premier historiquement était rien moins que Schumacher à Spa-Francorchamps en 1994.
Bon,
je vais m'arrêter, parce que des exemples, encore une fois, il y en a plein. Et à chaque fois, il n'y a pas de discussion possible parce qu'on vérifie en présence de l'équipe l'épaisseur de la plaque. Alors j'ai même, la FIA a même publié...
L'appareil de mesure.
Voilà, le Mitu Toyo micromètre acheté en mai 2025.
Oui, c'est vrai.
Où on va. Bon, et il est précis au millième de millimètre. Donc vous voyez que c'est quand même pas à la louche. Hein. Donc les faits ne sont pas contestables. Alors maintenant l'explication, mon Nico, c'est ce que tu me demandes. Et je suis désolé d'être un petit peu long d'entrée, mais bon, où on le dit, où on ne le dit pas. En fait, les essais ont été atypiques, comme vous l'avez vu, sur un circuit atypique, comme vous le savez. Un circuit sans grand intérêt, il faut le dire. Plusieurs pilotes l'ont manifesté, mais on va dire que c'est un événement sportif. Allez, comme ça, on évacue le sujet une bonne fois, même s'il s'y déroule parfois des courses pas inintéressantes, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, en fait, ça s'est déroulé dans des conditions erratiques. On a même eu du drapeau rouge parce qu'il y avait une plaque d'égout qui menaçait de s'envoler. Enfin, passons. Et surtout, des qualifs sous la pluie. Et c'est ça qui est important, parce que sous la pluie pour retrouver de l'adhérence, qu'est-ce qu'on fait? On descend toujours les monoplaces au maximum pour avoir un effet de sol, générer un effet de sol important. Qui dit descendre les monoplaces statiquement, les régler le plus bas possible, c'est flirter avec les limites du règlement. Or le problème, c'est que le Grand Prix s'est déroulé sur le sec, c'est pas un problème mais ce sont les conditions, et donc du coup les monoplaces avec la charge aéro qui leur était appliquée pour la pluie se sont retrouvées très bas sur la piste, on l'a vu, ça talonnait, faisait jaillir des étincelles. Voilà. Donc, alors, elles n'ont pas été les seules, mais il faut croire que McLaren, ils n'ont pas voulu tricher pour évacuer tout de suite la question, parce que tricher avec ça, faudrait être complètement abruti, et c'est pas leur cas. Simplement, comme toujours en Formule 1, on est aux limites du règlement et ils ont été piégés. Alors on a aussi, là, je vous passe les détails, mais vous avez le communiqué comme moi, sur la voiture de Norris, c'est le plus important évidemment. À l'avant droit, c'est 8,88 mm. Bon, à l'arrière, c'est 8,93 mm. Donc la plaque, elle est bien en dessous. Et sur celle de Piastri, eh bien, c'est 8,96 d'un côté, 8,74 de l'autre à l'avant et 8,90. Donc je veux dire, il n'y a aucune norme qui respecte les 9 mm. Donc, en conséquence de quoi, Joe Bower transmet ses constatations au Collège des commissaires sportifs. Et là aussi, on a les noms. Alors à chaque fois, il y a donc deux représentants de la FIA, Gary Connelly et Loïc Baclen. Et puis, il y a un représentant des pilotes qui est Vitantonio Liuzzi et Steve Pence qui est un des représentants de l'organisation locale, membre de la FIA, et ces gens-là décident d'exclure. Voilà. J'ai été long, je suis désolé, mais
après
mais
c'est là, très bien parce qu'il faut comprendre ce qui se passe et bien évidemment on va se pencher un petit peu sur le cas de McLaren. T'as commencé à ouvrir le dossier, Jean-Luc. Bon, ils ont pas voulu tricher, ils flirtent avec les limites. C'est quand même, Arnaud, une énorme erreur, hein, Arnaud et Tristan, pour McLaren. Tu peux pas te permettre, même si tu flirtes avec la limite, de prendre autant de risques peut-être quant à le titre qui se joue. Parce que franchement, Norris, on était persuadé que ça y est, il avait son titre de champion du monde dans les mains. Pour lui, c'est terrible, Arnaud, ce qui se passe.
C'est une faute professionnelle parce que les conditions et les réglages, en tout cas les conditions, étaient les mêmes pour tout le monde. Et c'est quand même les deux seules voitures à se faire attraper par la FIA. Alors cette saison, on avait vu Hamilton au Brésil aussi, il avait une usure à 8,6 millimètres. En tout cas, la plaque était épaisse de 8,6 millimètres. Et là, tu vois, une usure plus importante. Elle n'est pas énorme, mais bon, il faut dire que la plaque, à la base, elle fait 10 millimètres, elle fait 1 centimètre. Donc ça veut dire qu'on a quand même tapé dedans. Et quand on voit, quand Piastri fait ses dépassements sur le strip, le grand boulevard, où il y a pratiquement eu tous les dépassements, le grand boulevard de Las Vegas, on a vu qu'il y avait beaucoup d'étincelles. Et surtout, McLaren a vu le problème très vite arriver, puisqu'on a demandé aux pilotes de ralentir, de faire gaffe au virage 5, au virage 11, au virage 17, je crois, de mémoire. Virage 17 qui est le dernier avant la ligne droite, là, ce gauche très rapide. Et on a demandé à faire attention dans ces virages, à faire un petit peu de lift and coast, c'est-à-dire qu'on relâche, on passe pas à fond, on relâche un petit peu l'accélérateur et on évite, c'est aussi une manœuvre pour économiser un petit peu ses pneus, économiser ses freins notamment. Et très tôt, on s'est dit qu'il allait y avoir un problème et il y a plusieurs sites d'ailleurs qu'on fait remonter les différentes radios où on a prévenu Norris et prévenu Piastri qui risquait d'avoir un problème. Moi, je trouve qu'il y a quand même, alors, faute professionnelle, j'allais dire presque une forme de trahison, parce que quand on est aussi proche, dans un moment aussi décisif, on peut pas se permettre de jouer comme ça. En plus, Norris et McLaren, parce que c'est Norris qui est en tête, ont ce bénéfice du matelas d'avance sur Max Verstappen et il n'y avait pas besoin de prendre ces risques inconsidérés. Il suffit de marquer 8-10 points, ça suffisait pour mettre une nouvelle fois la pression sur Max Verstappen. Et encore une fois, on est en train de se mettre le feu tout seul chez McLaren. Moi, c'est le mot est s'ils perdent le titre, parce que j'étais en train de me dire, on se souvient rarement des champions chez les constructeurs. Alors, je vais vous citer une anecdote, un exemple. 2008, qui est champion du monde des pilotes? On s'en souvient tous. C'est Hamilton au Brésil. Et qui est champion du monde des constructeurs cette année-là? On s'en souvient moins. Alors évidemment, c'est important en tant qu'écurie. Mais pour le grand public, pour tous les fans, on se souvient que des écuries qui ont emmené un pilote, sur la première place.
Prestigieux, c'est sûr.
J'ai regardé tout à l'heure depuis les années 50, ça arrivait une dizaine de fois où t'avais un pilote dont l'écurie n'était pas championne du monde des constructeurs. Ça arrive de temps en temps. Ça arrivait l'année dernière, hein, par exemple, avec Max, et puis c'est McLaren qui est finalement champion du monde des constructeurs. Le plus important, c'est ce championnat du monde des pilotes. Le constructeur, oui, parce qu'il y a aussi des questions financières derrière. L'argent. Voilà. On trahit aussi un peu ses pilotes chez McLaren. Moi, j'avais même dit, on trahit un peu son histoire. Je me dis, mais tu te rends compte, Bruce McLaren, le néo-zélandais qui a fondé McLaren, il doit se retourner dans sa tombe. Quand tu vois tout le talent, tous les patrons, hein, Ron Dennis aussi, je dis, mais comment on peut laisser faire ça, ne pas se dire, on va la jouer cool, on va la jouer prudente. Et là, on se retrouve dans une position où certes, pour moi, Norris reste grand favori. Il suffit qu'il prenne 2 points de plus au Qatar Verstappen et sur Piastri. Bon, je pense encore que Norris sera champion du monde. Mais alors, ce goût, il est plus qu'amer.
Ouais, c'est clair. Tristan, la dynamique, elle change complètement là au niveau du championnat. C'est un 25-0 que Verstappen met aux deux, à Piastri et à Norris. Je vous rappelle quand même que Norris, il avait 42 points d'avance sur Verstappen et que désormais, il n'y en a plus que 24. Donc, ça change énormément de choses et on va voir comment Norris, mentalement, réussit à aborder les deux prochains Grands Prix. Mais je reste un peu Tristan quand même sur cette histoire de McLaren. Là, Arnaud parlait de trahison, de faute professionnelle. On est énormément tombé, nous, sur toutes les écuries qui faisaient des erreurs. Et Ferrari, Ferrari en première ligne, hein, notamment avec la disqualification d'Hamilton en Chine, pour ces mêmes critères. Bah, c'est incroyable de voir ça à 3 courses de la fin, en fait, Tristan.
Je n'ai pas peur de dire que c'est indigne d'une écurie championne du monde, parce qu'actuellement, ils sont champions du monde et ils vont l'être à nouveau. Enfin, ils l'ont déjà été en 2025. C'est indigne d'une équipe de champion du monde et c'est indigne face à la performance, par exemple, qu'ils ont fait en 2024, où ils ont été assez irréprochables et où, en fait, en 2025, il y a des erreurs. Toute l'équipe fait des erreurs, que ce soit Oscar Piastri, que ce soit Lando Norris, que ce soit l'équipe en elle-même. On a vu des pit stops extrêmement lents cette année, on a vu des décisions stratégiques absolument ridicules cette année. Et quand on voit le niveau de performance de la voiture, on se dit qu'au final, ils auraient dû gagner le titre encore plus tôt, presque. Ils sont uniquement sauvés par ça. Et effectivement, c'est une faute professionnelle. Il n'y avait absolument pas besoin de jouer avec ça pour moi ce week-end. Il suffisait de ramener des points à la maison. Il n'y avait pas besoin de faire plus pour Lando Norris. Le Qatar aurait dû être le lieu de son sacre, probablement. Au final, ça va peut-être être le lieu du changement de la saison qu'on attend tous. Il n'y a que 2 points à mettre de plus, mais il suffit que Lando Norris ne gagne pas. Et on peut espérer quelque chose, peut-être, si Max Verstappen remporte le Grand Prix. Je reste clairement sur ma faim, sur ce Grand Prix. Et ça montre, oui, juste la fébrilité de cette équipe, qui montre aussi à quel point elle n'a peut-être plus l'habitude de gagner, comme elle l'avait à l'époque, dans les années 2000. Et ça montre que oui, voilà, il y a des moments où on retrouve les faiblesses de McLaren, d'une époque révolue où Fernando Alonso criait constamment à la radio, mais où on retrouve ces choses-là. La seule chose positive peut-être que j'ai attirée de la situation, c'est leur communiqué, que j'ai trouvé honnêtement très respectable, parce qu'ils s'excusent sincèrement auprès des fans, auprès de leurs pilotes, auprès de leurs sponsors, etc. Chose que Ferrari n'a pas forcément fait en Chine, on va pas se mentir. Et oui, il faut être aussi dur sur McLaren que l'on a été sur Ferrari en Chine. Et j'espère sincèrement que Lando Norris va remporter ce championnat du monde. Sinon, mentalement, je pense que ça peut être extrêmement compliqué.
Et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est que c'est une des plus belles écuries. C'est une écurie mythique, McLaren. On parle pas de n'importe qui. T'as Ferrari, t'as McLaren derrière, qui est la deuxième écurie la plus titrée. C'est une écurie gagnante. C'est Prost, c'est Senna, c'est même Fittipaldi, si on veut remonter en 74. Jean-Luc peut évidemment en témoigner de ce que représente McLaren, le symbole de cette F1 britannique, à l'image aussi de Williams, construite par un homme. Enfin, ça me fait mal au cœur. J'espère qu'ils vont gagner, mais moi, ça me fait vraiment mal au cœur par rapport à tout ce que représente McLaren, qui est une écurie magnifique, en fait.
Mais on a surtout l'impression qu'ils sont détachés.
Mais les gars, là je vais revenir vers Jean-Luc. Pour nous, en tant que observateurs, c'est génial ce qui s'annonce pour les deux prochains Grands Prix et pour ce Grand Prix du Qatar. Tiens Jean-Luc, je te donne le petit sondage là qu'on a mis sur la page RMC Formule 1, la page Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Petit sondage publié par notre producteur Kylian Véroff. Qui va remporter le titre de champion du monde, mon Jean-Luc? 55% de nos auditeurs et followers votent pour Max Verstappen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même que dans la dynamique, Verstappen est en train de faire une remontée incroyable, que l'ascendant psychologique a peut-être tourné ce week-end à Las Vegas. Comment tu la vois, toi, cette dynamique, Jean-Luc? Parce que là, Verstappen, il va être inarrêtable. Et puis, s'il a un risque à prendre, il va le prendre, hein, lui. 24 points, ça n'a jamais été aussi palpable pour lui, cette remontée extraordinaire.
Hein. Il était à 103 après la Hongrie. Voilà. T'es à 103 points de Piastri.
Écoute, c'est là que je voulais en arriver. De toute manière, depuis la rentrée, hein, on va dire, depuis la Hollande, mais particulièrement depuis l'Italie qu'il a remporté, sa dynamique est extraordinaire. On est quand même sur 8 podiums consécutifs. C'est le 18e Grand Prix de sa carrière qu'il mène de bout en bout. Et à ce titre, eh bien, il est sur les talons du mythique Ayrton Senna. Mon Nico, tu m'avais fait la grâce de me dire que mon qualificatif d'Ayrtonien que je lui avais appliqué, je le ressors. C'est-à-dire qu'il va égaler au prochain Grand Prix qu'il domine de la tête et des épaules. Il égale le grand Ayrton. Et le seul qui se trouve devant encore, c'est Hamilton, avec 23 Grands Prix menés du début à la fin. Bon, donc, je vais répondre à ta question, bien sûr, avant de louer Verstappen comme il le mérite. Mais oui, c'est un ogre, c'est le meilleur pilote. Enfin, on le dit sur tous les tons, on peut être fan de McLaren, qui est extrêmement respectable. On peut, encore une fois, respecter, parce qu'il le faut, ces deux jeunes pilotes très talenteux. Lando Norris et Oscar Piastri, bien sûr. Mais là, on voit bien qu'ils sont en train de craquer sous la pression. Enfin, l'erreur de Norris, quand même, je l'évoquais tout à l'heure en ouverture de cette émission, dans le premier, au premier freinage. Alors, il ferme la porte, il claque la porte brutalement au nez et à la barbe de la Red Bull de Verstappen.
Mais sur le côté sale.
Voilà, sur le côté sale, très bien. Et après, il sort, j'allais dire, comme un débutant, je suis désolé, pas comme un leader de championnat du monde. Et donc Verstappen prend l'avantage et plus personne le revoit. Bah, je suis désolé, c'est le meilleur pilote, point final. Donc il mérite de gagner. Et je crois que nos auditeurs ont raison de le penser. En plus, ils ont peur, les gamins. Ils ont le bras qui tremble. C'est pas leur faire insulte, c'est pas leur faire outrage. Aucun d'entre eux, évidemment, n'a été champion du monde. Aucun d'entre eux n'a le mental d'airain de Verstappen. Alors, moi, j'ai des amis aussi, des passionnés autour de moi. Ah, Verstappen, ils sont restés sur les débuts. Ils l'aiment pas. Ils savent pas pourquoi, mais ils l'aiment pas. Je peux très bien comprendre. D'abord, on n'est pas obligé d'aimer les pilotes pour les admirer. C'est déjà une chose. Moi, il y en a, je vais pas citer de nom, que j'admire et que je respecte pour leur palmarès, mais que je n'apprécie pas personnellement pour diverses raisons. Mais c'est un autre débat. On va pas rentrer là-dedans. Là, on essaie de se cantonner au sport. Le meilleur, c'est Verstappen. La logique, après la remontée fantastique, la cavalcade extraordinaire que lui et Red Bull, évidemment, les deux, ensemble, ont fait, alors qu'on annonce à nouveau des départs d'ingénieurs autour de lui, etc. Mais ces gars-là, c'est le matériau dont ils sont faits, c'est de l'airain, c'est des guerriers. C'est ça que moi j'aime dans la Formule 1, dans le sport en général. C'est d'abord les gens qui considèrent que ça n'est jamais perdu et qui sont les meilleurs. Enfin, quand il y a une logique et j'allais dire une morale avec un E, bien sûr, dans le sport, et c'est que le meilleur gagne, vous êtes d'accord avec moi? Alors évidemment que en matière de sport mécanique, il y a toujours un élément mécanique et puis une équipe. Mais je vais vous dire, McLaren, telle qu'elle est aujourd'hui, parce que on parlait d'équipe mythique, elle est éminemment respectable, admirable et tout ce que vous voulez. Mais il y a les deux aspects. Il y a Andrea Stella, que là aussi, je vais jusqu'au bout et vous allez me voir venir, évidemment. Je respecte infiniment. Bon, ils ont fait une erreur. C'est lui qui porte le chapeau. C'est quand même lui le patron opérationnel. Il est dans ses petits souliers. Il dit, on a été nul. On s'excuse auprès de tout le monde. Et puis, c'est marrant. Dans ces cas-là, Brown, on l'entend beaucoup moins, hein, parce que lui, on est dans la com complet. Et quand il avait osé dire, rappelez-vous, on avait rebondi là-dessus, que si c'était Verstappen qui l'emportait, il le félicite devant ses pilotes, etc. Mais on est où là? Il s'en fout, il a pris le pognon, lui. Il a fait le jackpot, c'est le cas de le dire. On était à Vegas. Il est champion du monde constructeur. C'est là que se trouvent les ronds. Il va encore prendre les 50 millions de dollars à l'année pour lui, personnellement. Tout va bien. Et le reste, les pilotes, ouais, qui s'amuse, hein, puis on verra lequel des deux gagne. Bon, j'aimerais bien que ce soit l'anglais quand même, parce qu'il le mérite. Et puis voilà, c'est indigne. Ça, c'est une attitude indigne. Et puis, alors, Andrea Stella, et je vais avoir terminé cette longue réponse, mon Nico, une nouvelle fois. J'en suis désolé, mais c'est tellement complexe et il y a tellement de volets. Quand Stella dit à un moment, il n'y a pas très longtemps, au Mexique, je crois, Piastri, il est encore jeune, hein, il fait encore des erreurs sur les pistes glissantes, il n'est pas très bon. Ça va, quoi. Attends, on défend ses pilotes, on se bat pour le titre. Et je les trouve mous du genou.
Et surtout, rappeler un truc qui est très basique, ceux qui sont dans le baquet, c'est les pilotes. Et on ne doit pas les disqualifier, on doit pas les trahir comme ça. Eux, les pilotes, ils ont le droit de faire des erreurs. C'est eux qui sont derrière le volant. C'est eux qui prennent tous les risques, qui sont à 300 à l'heure dans des villes, parce qu'il y a les circuits urbains. Et donc, on ne doit pas prendre de risques comme ça sur des règlements techniques alors que tu as une bardée d'ingénieurs, de cerveaux qui sont à la fois dans la pit lane, dans les garages et même à Woking,
à l'usine. Il y en a des dizaines ou des centaines, mais oui.
Voilà, et on peut pas à ce moment-là jouer comme ça avec le feu sous prétexte que les essais libres, et encore on n'a pas eu de sprint, hein, donc il y a quand même eu des essais. On dit oui, ça a été difficile, la pluie ça fait partie des conditions, et encore une fois la FIA, et ils ont pris du temps, et je trouve ça bien, même si l'attente a été un petit peu longue, parce qu'on était 3-4 heures après le Grand Prix pour l'officialisation de cette double disqualification, ils ont contrôlé tout le monde, et ce sont les seuls à s'être fait taper sur les doigts, problème.
Moi, je me fais un peu l'avocat de McLaren, pour le coup, les gars, j'entends très bien, et vous avez raison, moi aussi, je pense que tu prends des risques démesurés sur cette course-là. Après, on parle de 10 dixième de millimètre, de centième de millimètre.
Ah oui, si mais c'est la F1, ça, Nico.
Ça construit des championnats. Hein. Les dizaines de millimètres, c'est ce qui construit des championnats.
Je suis entièrement d'accord. Après, peut-être que tu te dis qu'avec ce matelas d'avance, ils sont peut-être dit aussi, bah, on va peut-être pousser avec Norris, parce que si ça passe pour un dixième de millimètre, on s'assure le titre. Ouais. Et là, le pari n'est pas passé.
Mais en plus, tu sais qu'à Las Vegas, c'est tout. C'est pas sûr de passer.
Ce que je veux vous dire, c'est que notre analyse, pour un dixième de millimètre, notre analyse, elle change complètement, tu vois, sur cette course-là. Parce que si Norris fait 2 et que Piastri fait 4, on va encore louer le talent de Verstappen après ce Grand Prix en disant qu'il est magnifique, qu'il méritait probablement d'être champion du monde. Mais Norris, il a fait le boulot avec la voiture qu'il avait en terminant deuxième, hormis son erreur du premier virage.
Mais c'est pour ça que le problème, c'est pas Lando Norris, le problème, c'est McLaren. Et ce que Jean-Luc et Arnaud soulignent, et je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Lando Norris et Oscar Piastri doivent plus avoir peur de leur équipe que de Max Verstappen. Aujourd'hui, Lando Norris, je pense que s'il a de la pression, c'est que ça vient de son équipe, parce qu'il a peur de se faire avoir sur une erreur stratégique, sur un pit stop raté, il perd la confiance totale qu'il doit avoir pour gagner un championnat envers son équipe. Et c'est aujourd'hui le problème, je pense, qu'il va avoir. C'est qu'il va rentrer dans... Là, il a pris le jet pour rentrer chez lui, il y a 12 heures de décalage avec le Qatar, ils vont tous être un peu lessivés, et il va penser à la première chose à laquelle il va penser, c'est « Ah, bah, est-ce que la planche au Qatar, quand on sait l'abrasivité de la piste, des vibreurs, etc., bah, est-ce que mon équipe va être capable de gérer ? Quand on sait qu'il va y avoir une limite de 25 tours sur les pneumatiques, est-ce que mon équipe va être capable de faire une bonne stratégie ? C'est aujourd'hui, je pense que mentalement, c'est le tournant, il est plus là. Et aujourd'hui, quand on voit aussi, je sais pas si vous avez vu Lando Norris quand il est arrivé quand ils sont allés au Bellagio là pour aller faire les interviews, il tirait une tête. Il savait avant même de recevoir son podium, etc., qu'en gros c'était terminé. C'était terminé pas pour le championnat, mais pour aujourd'hui en tout cas. Et il perd aujourd'hui la chose qui est primordiale, chose que par exemple Ferrari n'a jamais réussi à donner à Lewis Hamilton depuis le début de la saison, une confiance envers sa voiture et son équipe. Et quand vous vous battez pour le championnat, moi je trouve ça très compliqué. Et alors que de son côté, Max Verstappen, mais lui il a une confiance, il a les yeux fermés envers son équipe, il a les yeux fermés envers ses stratèges. Il a les yeux fermés envers son ingénieur.
C'est ça une équipe. Et il perd et gagne ensemble.
Il est prêt à dire sans aucun souci à son ingénieur que quand il l'embête, pour être gentil, il l'embête, et quand il lui donne une bonne information, qu'il donne une bonne information. Et c'est une relation qu'il n'y a absolument pas chez McLaren. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut peut-être faire la différence dans la course au titre.
Vous pensez vraiment, les gars, là, Jean-Luc, Arnaud, Tristan, que ce Grand Prix de Las Vegas, c'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant parce que psychologiquement, comme le disait Tristan, Jean-Luc, la confiance entre Norris, Piastri et l'écurie, elle est forcément un peu rompue.
Mais absolument, absolument, mon Nico. Mais Tristan a très très bien expliqué ça. Ce que j'essayais d'évoquer également avec les déclarations de Brown d'un côté et de Stella de l'autre. On n'a pas soutenu les pilotes comme on aurait dû le faire. On n'a pas leur confiance. On n'est pas derrière. On n'est pas. Quand le patron de l'équipe dit, bah moi je m'en fous un peu hein, que mes pilotes soient champions ou pas. Mais c'est monstrueux. Comment veux-tu que des gamins, respectivement de 26 et 24 ans, se sentent soutenus pour aller à la bataille, au combat, comme l'évoquait Arnaud, qui sont dans les bagnoles à plus de 300 entre les rails, entre les murs ? Bah, c'est des pilotes, hein. Et il faut qu'ils sentent que derrière, bah, tout le monde est là, bien groupé. Allez les gars, on va se battre avec vous et vous allez l'avoir ce titre. Mais encore une fois, il y a eu cette ambiguïté, pour ne pas dire plus, cette fourberie de l'équipe, je suis obligé de le dire, où on voulait absolument que ce soit Norris qui soit champion. Et malheureusement pour eux, j'y reviens, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, cette casse moteur en Hollande, au détriment de Norris, a tout mis par terre. Puisque Norris s'est retrouvé loin et du coup... Eh bien, l'avantage de Piastri était toujours imposant. Du coup, il y a eu, encore une fois, ce méfait, cette consigne infâme à Monza, où on dit au petit Piastri, tu le laisses passer, hein, on s'est pris les pieds dans le tapis, dans le stand, hein, tu le laisses repasser devant, hein, excuse-nous. Et Piastri dit, pardon ? Et oui, tu vas le laisser passer parce que on récupère notre erreur. Bon, vous voulez vraiment ça, les gars ? Bah ouais. Et là, encore une fois, le ressort, Piastri, ils l'ont cassé, je le répète. Donc Piastri, ça n'est plus le même que celui qu'on a connu. On l'a dit, redit, il n'a plus le même regard, ni les mêmes ambitions. Et je vous fous encore une fois mon billet que si ça continue comme ça, fin 2026, il part voir ailleurs. Parce que là, McLaren l'a trahi, l'a déçu. Bon, lui, on l'a cassé. Donc tout reposait sur Norris. Et Norris, bah, j'en reviens, il n'a pas les épaules parce qu'il ne se sent pas soutenu non plus comme il devrait l'être. Il est friable, c'est un garçon estimable. Hein. Il a dit à un moment, au début de la saison, quand il était un peu nulle part, je crois que c'était même après sa grosse erreur au Canada, « Oui, mais moi, je veux gagner le championnat à ma manière. » Ben oui, je veux bien, c'est gentil. Mais les bisounours, je sais pas si ça a sa place en Formule 1.
Voilà. Mais tu sais, parce que
c'est devenu l'emblème.
On parle évidemment de Zandvoort. Avant Zandvoort, on est en gros un 50-50 dans les duels en piste entre Piastri et Norris. C'est à peu près à l'équilibre. Depuis Zandvoort, Piastri a été dominé à chaque course par Lando Norris. Ben voilà. On est sur un zéro pointé. Et forcément, ça interpelle et aussi l'écart. Alors après, il faut aussi avoir des preuves. Mais il y a quelques faits qui nous portent à croire.
Ah, ça fait tiquer!
Il y a un truc. Et moi, ce que je trouve, je pense que Norris sera quand même champion du monde. Évidemment qu'on a envie de rêver d'avoir un dernier Grand Prix à Abu Dhabi, incroyable, mais il y a quand même, même si le pourcentage d'un titre de Max a un petit peu augmenté, mais on est allé quoi, entre 5 et 10%, pas plus. Ça reste quand même à 90% un potentiel titre de Lando Norris avec 24 points d'avance et 58 encore à partager. Mais il y aura un espèce de goût d'inachevé si Norris est champion du monde, et je le crois, parce que la façon dont ça se termine, on peut pas dire Norris sera un beau champion du monde, c'est un super pilote qui a été très régulier cette saison, mais il y aura un goût bizarre, en fait, je trouve, un truc que je dis,
c'est pas
clair et net. Alors
il y aura pas de goût du tout, surtout il y aura pas de goût. Et alors que c'est un pilote qui a démontré à quel point il était rapide. Et pour revenir sur ce week-end, moi aussi je suis persuadé que Lando Norris va remporter le titre, parce que, comme l'a dit Arnaud au début du podcast, il ne faut uniquement que 2 points de plus pour qu'il soit titré dès le Qatar. Donc en fait, dès le Qatar, il peut fermer la porte à tout espoir de la part de Max Verstappen et de son coéquipier. Mais là, le problème, c'est que à la sortie de Las Vegas, s'il n'avait pas été disqualifié, il aurait eu le droit à l'erreur au Qatar. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, il est obligé d'être irréprochable sur ces 2 prochains Grands Prix, dont un Grand Prix avec une sprint. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un sport mécanique, comme l'a rappelé Jean-Luc. Il a déjà fait l'expérience de problèmes, notamment à Zandvoort. Donc il faut espérer que ça ne tombe pas une deuxième fois encore sur lui. Mais il y a ce côté où il va arriver le jeudi, il va se présenter devant les médias. Il aurait pu se présenter en disant il suffit que je fasse sixième sur la sprint et je ne sais pas, je dis n'importe quoi, deuxième au Qatar et j'étais titré. Et aujourd'hui, il est obligé de faire l'effort supplémentaire, entre guillemets. S'il le fait, tant mieux. Mais ça ramène un petit peu plus de pression quand même. Et Max Verstappen, il lui faut pas grand chose. Hein. Max Verstappen, il lui faut que quelques millimètres pour que ça devienne très vite des mètres et ensuite ça devienne un trou béant. Donc,
et
attention.
En plus, tiens, oublions pas chez Red Bull, on est parti des stands au Brésil, on a tout changé. Donc on a des pièces neuves et des éléments beaucoup plus frais que chez McLaren.
Oui. C'est clair. Absolument.
Les gars, je voulais vous diffuser l'interview de Lando Norris. Alors, on est juste après la course. Hein, donc là, Lando Norris, qu'on va entendre au micro de Canal+, le diffuseur, ne sait pas encore qu'il est disqualifié, même si on s'en doutait qu'il n'y croyait pas. C'est ce que nous disait Tristan tout à l'heure. Je voulais vous le diffuser, ce son-là, parce qu'il parle notamment de la performance de la Red Bull par rapport à la McLaren. Et peut-être que ça peut aussi nous donner des indications pour les 2 derniers week-ends de course. Lando Norris.
I just braked too late. It was pretty stupid for myself. But I didn't change anything. Max would have won. I think anyway, we
ça n'a pas changé. On n'avait pas de rythme de toute manière et c'est dommage. On avait du rythme hier, mais pas aujourd'hui en qualif. Ils étaient plus rapides au Brésil, Red Bull. Ils étaient plus rapides ce week-end. Ils sont rapides. Donc je suis forcément déçu d'être deuxième, mais je suis quand même content avec cette position parce que c'est le meilleur résultat qu'on pouvait tirer. Alors là, bien sûr, on lui pose la question sur son avance au championnat, parce qu'à cette époque-là, Norris avait 30 points d'avance et il dit « je vais continuer à aborder les courses comme je l'ai toujours fait, étape après étape ». Jean-Luc, Norris, il dit quand même un truc là qui peut interpeller aussi, qui peut aussi te donner un indicateur pour la fin de saison. Il dit que là, la Red Bull, clairement, en course, elle a plus de rythme que la McLaren. Que ça fait 2 week-ends qui sont plus rapides et qu'en gros, Norris, il se bagarre pour la 2e position.
Bon, alors ça, je suis désolé, là je vais le critiquer là-dessus ou mettre en doute ce qu'il dit. Ça, c'est un discours de pilote. Un pilote va rarement te dire « Ah ben j'ai le meilleur matériel et de très loin, sous-entendu, c'est normal que je domine ». Non, son mérite à lui, c'est justement toujours de tirer le meilleur d'un matériel qui est censé être inférieur, bah évidemment. Et là aussi, c'est dans la com. Moi, je ne pense sincèrement pas, mais sincèrement, hein, que la Red Bull soit meilleure que la McLaren. C'est pas vrai. Au mieux, elles sont égales. Je pense encore que la McLaren est plus constante sur les différents circuits, que c'est vraiment une machine extraordinaire, une machine de guerre. Mais écoutez, je vais prendre le problème à l'envers. Imaginez Max Verstappen dans la McLaren. Qu'est-ce qu'on dirait ? Mais il serait sans coudée devant. On est tous d'accord. Bon, ben voilà, c'est fini. Donc, ce qu'il dit, pour moi, c'est faux. Ça n'est pas vrai. Bien sûr que la Red Bull a progressé. Tu le disais, mon Nico, on a mis des pièces d'or. Ou Arnaud, pardon, il y a un instant, on a mis au Brésil, on a tout remis en cause. C'est une écurie de guerriers, Red Bull. Vraiment. Malgré les départs, là aussi, de pas mal de monde. Et tout le monde se réjouit et se frotte. On essaie de l'affaiblir et c'est normal. C'était les meilleurs, hein, jusqu'à il y a très peu. Bon, mais McLaren est encore un peu court, jeune homme. Moi, je pense que pour reprendre l'analyse de Norris, puisque la question était là et sa réaction que nous venons d'entendre, c'est pas un discours de winner, c'est pas un discours de conquérant, c'est pas un discours on va faire le boulot, hein, on est bien, on est content d'être deuxième, hein, et puis c'est du gain petit, ça, c'est pas enthousiasmant. Alors effectivement, les chances statistiquement, mathématiquement, de Norris d'être titré sont encore très importantes, mais il a le bras qui tremble, Norris. Il a, comme en tennis, vous le savez, et les tennis, des matchs excuses. Perdus, même par les plus grands, il y en a plein. Quand tu commences à avoir le bras qui tremble, ça veut dire que là, tu es friable, tu es fragile. Et Verstappen, lui, il a le couteau entre les dents. C'est un pirate. Il est à l'assaut. Il attrape la corde et il saute sur le pont. Et il y va au carnage.
Et ça, voilà, ça on le savait, tu vois, Jean-Luc. Mais surtout, quand tu dis, ça a réveillé cette bête de compétition qu'est l'écurie Red Bull, où on est quand même sur les 15 dernières années, il y a 8 fois que Red Bull a amené un pilote au titre de champion des pilotes, les 4 années avec Vettel et les 4 années avec Verstappen. Donc tu sens que c'est évidemment une écurie qui a la gagne en elle, et malgré les soubresauts et le départ de Christian Horner, tout le monde a été fédéré de nouveau grâce à l'arrivée, j'allais dire presque de l'apaisant Laurent Méquies, qui est allé, qui a ressoudé tout le monde, qui a redonné confiance aussi à Yuki Tsunoda, où on parle, même s'il n'y a pas des performances incroyable chez Tsunoda, on sent aussi qu'il y a de la considération pour le pilote japonais. On sent que chez Red Bull, tout le monde s'est mis au diapason, qu'on a arrêté les petites guerres intestines, et que force est de constater que le départ de Christian Horner a aidé à apaiser un petit peu tout cela aussi, et qu'on est chez McLaren qui n'a pas cette gagne sur les 15 dernières années, car Red Bull est évidemment dans des moments fatidiques, ça se ressent, et même s'ils arrivent à gagner le titre pilote cette saison, et les conséquences pour 2026 avec changement technique aussi, et ces changements aussi un petit peu d'ingénieurs partout, et les questionnements qu'on peut se poser, Las Vegas, c'est peut-être pas des conséquences directes sur l'issue sportive de 2025, mais ça peut l'être pour 2026.
Ah bah c'est sûr,
vrai, on va se projeter.
Là, McLaren, rapidement. Ils se font mettre la pression par une marque qui vend des canettes, hein, il faut le rappeler quand même. Hein. McLaren. Hein. Oui. Non mais on parle de McLaren, je sais pas si. Absolument. Ils se font mettre la pression par des vendeurs de canettes. Alors, les vendeurs de canettes, c'est des machines à gagner.
C'est
caricatural, mais c'est le cas. Et puis, et comme le disait Jean-Luc, Max Verstappen, c'est un gagnant. Vous pouvez être certain que si ça va au-delà du Qatar, enfin, en tout cas, si la course au titre est prolongée jusqu'à Abu Dhabi pour Max Verstappen, vous pouvez être certain que Red Bull aura préparé les t-shirts Max Verstappen champion du monde, hein. Même s'ils sont à 24 points de Lando Norris, hein. Vous inquiétez pas qu'ils seront prêts, les t-shirts. Aujourd'hui, McLaren, il faut simplement redonner la confiance aux pilotes, mais sur deux grands prix, ça va être très compliqué. Et puis, Lando Norris, il faut essayer de faire le maximum pour éviter de perdre. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est terrible à dire. Il faut faire le maximum pour éviter de perdre. C'est pas faire le maximum pour essayer de gagner. Et son interview d'après Grand Prix, elle est d'une tristesse, parce que ce qu'il dit, c'est la Red Bull est meilleure que la McLaren. Déjà, c'est faux, parce que quand on voit sa performance en qualification, déjà, lui, il montre qu'il a le niveau, mais que sa voiture aussi. Et surtout, ce qu'il dit à la fin du Grand Prix, c'est Max Verstappen a été meilleur. Et ce serait terrible de dire à la fin de la saison, Max Verstappen a simplement été meilleur. Parce que là, ça voudrait dire qu'il aurait perdu le championnat.
Ouais. Les gars, parlons un petit peu de la course de Ferrari. Bon, on va écouter Charles Leclerc, tiens, avant d'aborder le chapitre Ferrari au micro du diffuseur. Il partait loin sur la grille, Charles Leclerc. Du coup, avec les disqualifications, il arrive à tirer la quatrième place, à grappiller cette quatrième place et de précieux points. Mais il y a encore beaucoup de frustration chez Leclerc.
Ah, c'est extrêmement frustrant parce que je pense que c'est une de mes meilleures perfos de l'année en termes de dépassement, agressivité, même quand je regarde la voiture, et tous les tours étaient vraiment des tours de qualif et j'ai pris énormément de risques pendant cette course, mais bon, de faire sixième, c'est pas super. Donc, honnêtement, j'ai du mal à comprendre cette course. Le premier stint était très bien, je pense que le deuxième était extrêmement bien aussi, mais malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où on avait Oscar qui était dans le DRS de Kimi, et donc du coup, c'était beaucoup plus compliqué pour moi, c'était impossible pour moi de doubler Oscar parce qu'on perdait trop dans les droites. D'un autre côté, j'ai pris énormément de plaisir pendant cette course parce que il fallait y aller, et il fallait prendre des risques pour les dépassements. Bon, après, avec la stratégie, j'ai l'impression qu'on a fait un petit step en arrière, un peu trop. D'ailleurs, on a perdu quelques places qui nous ont coûté un petit peu cher pour le deuxième stint, et ça a rendu le deuxième stint compliqué.
Voilà, Charles Leclerc, bon, frustré. Et maintenant, écoutons Lewis Hamilton, son coéquipier chez Ferrari. Alors là, vous allez voir, c'est frustré, mais bon, je sais même pas comment analyser les déclats d'Hamilton, on l'écoute. Je ne suis pas particulièrement satisfait, c'était assez terrible. C'est un week-end désastreux. J'ai réussi à remonter jusqu'à la 12e place au départ, et après, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Les 22 premières courses de la saison ne se sont pas bien passées. Il faut s'attendre à la même chose pour les deux prochaines, de toute manière. Voilà, Lewis Hamilton, au micro bien évidemment de Canal+. Jean-Luc, franchement, quand t'entends les deux pilotes, alors t'as des discours différents hein, chez Leclerc et chez Hamilton, mais moi c'est surtout c'est l'analyse d'Hamilton de sa saison. On parlait de course indigne pour McLaren, de la gestion de course indigne de McLaren, mais moi j'entends un septuple champion du monde que je paye très cher chez Ferrari avoir ce discours-là après 22 courses. Mais ça, moi je trouve ça indigne de l'entendre parler comme ça, Lewis Hamilton, Jean-Luc.
Totalement, Nico, totalement. Écoute, on est tous gênés. Moi, je suis vraiment personnellement gêné parce que Lewis, j'ose dire, a été un très grand pilote, un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Voilà pour les fans qui nous écoutent et qui vont le défendre jusqu'au bout. Je vais penser à Marion, hein, Bartoli, avec qui j'ai des échanges réguliers dans son émission à ce propos, mais elle l'admet très bien. C'est une sportive, elle sait ce que c'est. Hamilton n'est plus celui qu'il a été. Voilà, je crois qu'il faut le dire. Jamais dans sa carrière, il ne s'était qualifié à la régulière, dernier sur une grille de départ. Depuis son arrivée, ça n'était jamais arrivé. Alors, je veux bien que la Ferrari soit pas au niveau, mais regardez ce que Charles en fait, encore une fois. Et je l'avais dit, rappelez-vous, l'an dernier. Bon, il suffit de réécouter les débriefings. Hein. Quand on a l'arrivée d'Hamilton, c'était merveilleux, on allait voir. Et j'avais dit, attendez, faut déjà qu'il prenne la mesure. Sa référence, ça va être Charles Leclerc. Bon, on en est tellement loin. Au championnat, je vais quand même vous rappeler les chiffres. Hein. 226 points pour Charles Leclerc, 5e. La chance d'Hamilton, c'est qu'il n'y a personne derrière. Donc, du coup, il est 6e avec 152 points, mais c'est un gouffre. Il a
attention
à peine
à
les deux tiers
même,
des... Pardon ?
Attention à Kimi Antonelli quand même, hein, parce qu'il est pas
oui,
très loin.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Le petit Antonelli, le gamin d'à peine 19 ans maintenant, depuis quelques semaines, risque de faire aussi bien que le quadragénaire Lewis Hamilton, septuple champion du monde, en haut au panthéon du nombre de pôles et de victoires. Écoute, c'est gênant. Alors, il va aller au bout. D'abord, il y a un contrat. Et c'est une catastrophe industrielle. Et là aussi, entendre John Elkann, lui aussi, je vais mettre une pierre dans son jardin, évidemment, qui est responsable du recrutement d'Hamilton, je l'ai dit, et c'est pas faire outrage et offense, encore une fois, j'en suis certain, c'est pas Fred Vasseur qui a décidé de donner 80 millions de dollars à Lewis Hamilton. Bien sûr qu'il était content de le voir arriver, il le connaît très bien, ils ont gagné ensemble, ils s'apprécient, il n'y a pas de problème là-dessus. Comment un patron d'écurie pourrait-il ne pas être content de voir arriver le pilote le plus titré dans son équipe ? C'est naturellement ça. Mais je pense que ni Fred Vasseur, ni Hamilton ne s'attendaient à ça. Alors, la voiture est pas bonne, puisque Charles a décroché une pauvre pole en se sortant les tripes, c'est vraiment le mot, et toujours pas de victoire. Et là aussi, moi, je vous fous mon billet que si la Ferrari 2026 est aussi lamentable, osons le mot, parce qu'ils vont terminer quatrième du championnat, là aussi, mon Nico, tu l'as évoqué, je crois que maintenant, c'est clair, hein. Mercedes est, à mon avis, totalement irrattrapable, hein. 431 points alors que la Scuderia n'en a que 378 en deux grands prix, j'y crois pas. Alors peut-être qu'ils vont se hisser timidement sur la troisième place, mais pour ça, faudrait qu'il y ait un deuxième pilote dans la deuxième Ferrari. On est presque au niveau de Tsunoda. Alors vous allez me dire, oui mais en course, il est parti 19, il termine 10, bon finalement 8. Oui, bah, et il fait tout dans le premier virage, vous l'avez vu comme moi, non ? Il se retrouve 12e à la sortie du premier virage. Alors super, il passe au milieu des dégâts, des accrochages, c'est très bien joué, il a énormément de métier, et c'est, j'en suis ravi, hein, la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de l'enfoncer, mais il n'est pas au niveau, il n'est plus au niveau, il n'a plus envie. Ça y est, c'est passé. Moi, je ne sais pas où il va retrouver la motivation. Rappelez-vous de ses déclarations en Hongrie, ce qui ne va pas, bah, c'est moi, il faut me remplacer. Bon, c'est terrible, quoi. C'est vivement que cette saison se termine, parce que moi, je suis gêné, vraiment. Je trouve ça pathétique. Ouais. Alors, maintenant, pour terminer sur une note optimiste, mon Nico, puisque tu les as englobés, bah, y a Charles qui se bat. Mais alors là aussi, j'ose dire, jusqu'à quand ?
Mais en fait, ce qu'il peut. Moi, je trouve Jean-Luc, et je suis un fan de Lewis Hamilton. Évidemment, quand tu vois avec un peu plus de hauteur, tu sens que quelque chose s'est évidemment cassé à Abu Dhabi en 2021 quand il perd le titre. Parce que quand tu regardes l'agonie que ce fut sa fin chez Mercedes, où, là, entre guillemets, il avait le droit de la ramener. Parce que c'est lui qui avait fait gagner Mercedes, et Mercedes l'avait fait aussi un petit peu gagner. L'année dernière, il gagne à Silverstone, mais normalement, c'est Russell qui doit gagner. Donc sinon, t'es presque à une seule victoire sur les quatre dernières saisons. Et là, tu arrives chez Ferrari. Pour moi, même tous les Lewis Hamilton que tu es, tu n'as pas le droit de venir te plaindre comme ça, fais profil bas, parce que déjà, c'est pas ton écurie, c'est celle de Charles Leclerc. Et quand tu vois tous les grands pilotes, toute l'histoire de Ferrari, je pense que un peu plus d'humilité, même si des fois il fait des actes de contrition comme ça, ça va pas. Et clairement, oui, c'est un mariage raté. Je pense pas qu'en 2026 ça va grandement changer. Ça fait plusieurs saisons que Lewis se fait battre par son propre coéquipier. L'année dernière, évidemment, George Russell et là, Charles Leclerc, il n'y a pas photo. Il va encore terminer entre 6 et 7 au niveau du classement au championnat du monde des pilotes. Je suis extrêmement déçu. J'ai l'impression de ne plus voir de flamme chez Lewis Hamilton. Et j'allais dire, puisqu'on parle un petit peu des pilotes et des grands pilotes, à 7 titres de champion du monde, il n'y en a évidemment pas 500. Mais je n'ai pas souvenir que... Et c'était un projet aussi différent. Quand Michael Schumacher revient chez Mercedes avant que Lewis Hamilton lui prenne le baquet, on était dans un processus de reconstruction. Je n'ai pas l'impression que Schumi, à l'époque, il y avait des déclarations un peu dans ce sens-là. Quand bien même la Mercedes qui avait racheté des parts chez Brand GP, qui sortait d'une saison 2009 avec un titre à la fois le titre de Jenson Button et le titre de constructeur, j'avais pas le sentiment, tout Michael Schumacher qu'il était et qu'il est, de faire des déclarations dans ce sens-là,
j'ai pas souvenir de résultats catastrophiques aussi comme ceux de Hamilton. Ouais,
c'était pas fabuleux, mais c'était pas
dingue, mais c'était pas à ce point-là. Je suis d'accord avec vous, les gars. Tristan, un petit mot quand même sur le week-end d'Isaac Hadjar qui du coup arrive à aller chercher des points précieux, hein. Il est 9e au championnat du monde d'ailleurs des pilotes, Isaac Hadjar, avec désormais 51 points. C'était important pour lui là. En plus, Lawson avait fait une belle séance de qualif, de se montrer peut-être au front office de Red Bull. Bah, il l'a bien fait, Hadjar.
Bah oui, puis j'aime beaucoup le fait que Canal+ se concentre désormais plus sur la course au titre que sur lui, parce que ça lui permet de... Non mais c'est vrai, ça lui permet de faire des performances qui sont très respectables, à un excellent niveau. Et sans avoir tout le temps un regard un peu biaisé par la, c'est normal, hein, par la télé française, mais ça lui permet de construire ses week-ends dans son coin et de démontrer qu'il a tout simplement un talent inné qu'il doit encore forcément travailler, parce que on l'a vu durant la saison, il y a des petits couacs à certains moments, mais encore une fois un week-end très solide. Il le fait parce que moi j'aimerais aussi parler de Liam Lawson, et s'il y a bien quelque chose qu'on peut critiquer sur la FIA ce week-end, c'est la sanction qui a été absolument oubliée sur Liam Lawson, alors qu'il tente Même Margot chez Canal+, Margot Lafitte a utilisé des mots que je n'utiliserai pas, mais qui commencent par un A et qui finit par A de Liam Lawson sur son attaque. Donc voilà. À part ça, un week-end très solide d'Isaac Hadjar. Et puis pour simplement revenir rapidement sur Ferrari, s'il vous plaît, donnez quelque chose à Charles Leclerc l'année prochaine, parce que quand on voit son niveau, quand on voit ses dépassements, alors j'en regarde peut-être très biaisé parce que c'est aussi le pilote avec qui j'ai grandi à regarder la Formule 1, Charles Leclerc.
Il est formidable,
mais,
Charles.
Mais quand je vois ses attaques, quand je vois son dépassement sur Oscar Piastri, quand je vois comment il construit son week-end, c'est digne de quelqu'un qui joue le titre. Malheureusement, il n'a pas la voiture. Et ce que je regrette aussi, c'est tout le temps ces mêmes déclarations. Ces mêmes déclarations de Frédéric Vasseur. Moi, j'aime pas tirer sur l'ambulance et j'aime pas tirer sur Frédéric Vasseur en particulier, mais constamment, pendant 22 Grands Prix, dire « Ah, je ne comprends pas, on était très bon en essai libre, on a changé quelque chose dans le qualif, ça n'a pas marché, et pour la course, on était nulle part. » Au bout d'un moment, il faut aussi se remettre en question, et au bout d'un moment, il faut peut-être regarder comment on construit son week-end chez Ferrari, plutôt que de tout le temps dire « Ah ouais, mais la voiture, elle a un problème », ou des choses comme ça.
Faire d'essai libre et direct la qualif, tu ne fais pas rouler la voiture.
En fait, la voiture a un très bon rythme en qualif, alors je ne sais pas ça si c'est parce qu'il roule avec moins... Je sais pas s'il roule avec moins d'essence ou s'ils font des choses spécifiques, mais constamment les mêmes remarques de « On est très bon en essai libre, en qualif, on change quelque chose au dernier moment, ça marche pas, et du coup on est pénalisé pour la course », ça commence à devenir assez long et assez répétitif. Et Lewis Hamilton, bah, il l'a aussi dit sur la BBC, c'est là que c'est encore plus triste, hier, qu'en gros il avait pas du tout hâte même d'être la saison prochaine. Donc au bout d'un moment, il va falloir aussi, avec tout le respect qu'on a pour Lewis Hamilton, le recadrer un petit peu chez Ferrari peut-être. Je suis pas d'accord avec les propos de John Elkann, mais au bout d'un moment, il faut aussi lui dire qu'il a un contrat, qu'il a des obligations à respecter, et que s'il est pas d'accord avec ce qui se passe, c'est très bien.
Mais
il peut partir. Ouais. Et quand je vois Fernando Alonso, qui a plus l'âge de prendre sa retraite que d'être pilote de F1, et qui, qu'on aime ou pas le personnage dans sa communication, se bat constamment, bah ça, franchement, ça fait bizarre de voir Lewis Hamilton comme ça. Mais sinon, un très beau week-end, et aussi un très beau week-end des As. Donc très content qu'ils marquent des doubles points, et on les voit vraiment revenir, en tout cas sur le haut, donc sur le haut du plateau, en tout cas se battre dans le milieu du peloton, et c'est très 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 sympa à voir. Et on espère que pour 2026, ça va aussi bien marcher.
C'est vrai que As fait une super fin de saison. Classement des constructeurs, As a un peu de retard quand même sur Racing Bulls. Hein. Il y a 17 points d'écart entre Racing Bulls.
Je viens de retrouver la déclaration de Fernando Alonso, qui a dit que le Qatar et Abu Dhabi seraient des courses de célébration, parce que à l'issue, il ne piloterait plus l'Aston Martin AMR25.
Ah oui,
exceptionnel. Non mais c'est quand même, quand on voit la différence de communication entre les deux, c'est assez exceptionnel. Parce que au final, on pourrait prendre, ça peut être très mal pris ce qu'il dit Fernando Alonso, mais après quand on connaît le personnage, bah on est habitué. Mais au final, ça montre aussi qu'il a envie de regarder l'avenir, il a envie de regarder 2026.
Lewis Hamilton,
on lui demande, il dit non mais j'ai ni hâte d'être au prochain Grand Prix, ni hâte d'être à la prochaine saison. Bah il serait peut-être temps de raccrocher les crampons, mais bon, raccrocher le baquet pour le
temps de se concentrer sur les défilés de mode, hein. Voilà. Hein.
Ouais. On parlait un peu des As, ça fait toujours plaisir de voir Esteban Ocon mettre le miso de sa As dans les points, et qui plus est terminé devant Oliver Mann, parce qu'on le dit, on le répète, hein, sur ces dernières courses, c'est dur pour Esteban, il souffre un petit peu de la comparaison avec Berman, et là pour le coup il a réussi à faire un week-end solide.
Et les deux, en qualif, hein, mon Nico, il était 13, Berman 14, et c'est pas arrivé si souvent, récemment, que Esteban parvienne à devancer Oli, dont tout le monde loue le talent, hein, parce que Berman, c'est évident que c'est un très grand à venir, il a pas le matériel vraiment, mais il aurait, là aussi, il serait dans la Mercedes d'Antonelli, je pense qu'il ferait au moins aussi bien, c'est mon avis.
Ou dans la Ferrari d'Hamilton.
Oui, il serait peut-être temps que John Elkann y regarde à qui il donne des pièces dans les autres écuries, et pourquoi il a placé aussi son pilote ici. Hein.
Bien c'est sûr. Oui, non, mais là, il termine dans cet ordre-là, 9 et 10, dans les points. Donc, moi aussi, ça me fait plaisir. Puis, As, c'est la plus petite équipe, on le sait très bien, de la Formule 1, et voir les résultats qu'ils obtiennent, c'est réjouissant, là aussi. Et puis, il n'y a pas de grande déclaration à la mort-moi-le. on travaille. Moi, j'aime beaucoup le manager aussi. Enfin, je trouve qu'ils sont méritants. Voilà, ils sont méritants.
C'était
et qu'est-ce que ça fait du ouais mais qu'est-ce que ça fait du bien le départ bien. De Gunther Steiner aussi. Oh là là, qu'est-ce que ça fait
oh,
du bien.
Oh mais arrêtez avec mon Gunther, il est arrivé
comme par hasard.
Non mais c'est comme
Gunther, une petite déclaration peut-être Gunther.
Est-ce que Gunther est avec nous?
Obviously, the car was better with 2025 specifications. And during my time, I had Romain Grosjean as driver. It was so bad, you know.
Merci Gunther. Vous étiez sur une radio française, on aurait bien aimé vous prendre en français, mais en anglais c'était très bien. Bah les gars, merci français, beaucoup.
Gunther. Et bravo, et bravo pour la Q3 à Pierre Gasly aussi. Dommage pour le Grand Prix, mais une belle qualification.
Oui, c'est vrai. Et un mot de Carlos Sainz, hein. Juste un mot, mon Nico, avant de fermer la porte. Quand même, bah, il fait le boulot. Hein. Là, c'est
troisième
pareil,
sur la grille.
Ah bah ouais.
Et il est en train de reléguer Alex Albon, qui a fait un début de saison exceptionnel, au second plan dans la Williams. Alex Albon qui a aucun rythme sur la fin de saison, c'est assez étrange. Et il est vraiment en train de... En tout cas, alors il le dépassera probablement pas au classement pilote, mais il fait une vraie fin de saison, Carlos Sainz.
Ah, et un mot sur Kimi Antonelli aussi. Hein.
Bah, sur les Mercedes tout court.
On
dirait tout
le monde.
Les Mercedes qui sont la meilleure équipe depuis le retour de... Depuis la,
et qui vont terminer vice-champion du monde,
bien sûr. Et ils font une saison exceptionnelle.
This is a great result with Kimi and George. We had an amazing pace tonight and congrats to the driver and to the team.
Mais c'est la piste aux étoiles à Vegas avec Toto et Gunther. Et Toto et Gunther, c'était pas des magiciens à Las Vegas à une époque, tu sais.
Au César Palace, ils se produiront après Céline Dion.
Avec David Copperfield, ouais, après Céline Dion, exactement. Les gars, merci beaucoup. Bon, on a fait bien évidemment très 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 long sur cette disqualification des McLaren, sur cette lutte pour le championnat du monde pilote. On se donne rendez-vous jeudi pour le warm-up du Grand Prix du Qatar, course sprint en plus. Vous aurez tous les scénarios potentiels pour que Lando Norris ou Max Verstappen ou Oscar Piastri, qui sait, soit sacré champion du monde dès ce week-end. Il y a plein de scénarios différents. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. N'oubliez pas de nous noter sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis n'oubliez pas la petite page Instagram RMC Formule 1 pour avoir toutes les actus F1 d'ici là. Bye bye les gars, ciao.
Salut.
Le paddock RMC.